Le journal Thomas Larabie, bonsoir Thomas.
Bonsoir Chloé, bonsoir à tous. Il était l'une des cibles privilégiées des manifestants en Algérie. Le général Ahmed Gaït Salah est mort ce matin d'une crise cardiaque à l'âge de 79 ans. Fidèle de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, il avait organisé le départ de celui-ci sous la pression de la rue, puis supervisé la période de transition avant l'élection de son successeur, Abdelmadjid Tebboune. Nous entendrons les réactions sur place avec Louise Baudet. Reporters sans frontières dénonce un procès opaque et une justice bafouée. 5 Saoudiens sont condamnés à mort dans l'affaire Khashoggi, mais 2 proches du prince Salman sont disculpés. Secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, reviendra sur ce procès à huis clos auquel seule une poignée de diplomates a pu assister. Et puis la grève qui continue à la SNCF, à la veille de Noël, les syndicats appellent à garder vive la flamme de la contestation contre la réforme des retraites. Le trafic sur les rails reste très perturbé, pourtant le taux de cheminots grévistes est en baisse. Explication d'Hakim Kasmi dans ce journal. Il était l'un des piliers historiques du régime d'Abdelaziz Bouteflika. Le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaït Salah, est mort ce matin d'une crise cardiaque à l'âge de 79 ans. Il était sur le devant de la scène depuis le mois d'avril. C'est lui qui a organisé la démission du président Bouteflika sous la pression de la rue. Il a ensuite assuré la transition, devenant la cible du mouvement populaire algérien. Ce dernier représentant de l'indépendance était même devenu le symbole d'un régime s'accrochant encore et toujours au pouvoir. Sa dernière apparition publique, c'était il y a 4 jours pour l'investiture du nouveau président Abdelmadjid Tebboune, lui aussi rejeté par la rue. Quoi qu'il en soit, sur place, la mort du général laisse un vide et pourrait rebattre certaines cartes, Louise Baudet.
Ça n'est peut-être pas un tournant, mais la disparition brutale du puissant général, omniprésent, voire omnipotent sur la scène politique algérienne ces derniers mois, va laisser un vide et changer les habitudes de l'armée, à entendre Faisal Metaoui, journaliste du site d'information Tout sur l'Algérie.
L'armée va plutôt se retirer du champ public, puisque Gaït Salah aura été le chef d'état-major qui aura fait plus de discours de toute l'histoire de l'armée. Il en a fait presque une quarantaine depuis le 22 février dernier, c'est-à-dire le début de la contestation en Algérie.
Alors au fond, personne ne s'y trompe, l'armée mais va rester la colonne vertébrale du régime, une constante depuis l'indépendance. Mais la disparition de Gaït Salah pourrait être une opportunité pour le président Tebboune. Élu il y a 10 jours, au terme d'un scrutin boudé par les Algériens, il a été adoubé par Gaït Salah et s'apprêtait à devoir composer avec lui. Saura-t-il du coup s'affranchir de la tutelle de l'armée? La balle est en tout cas dans son camp, précise le politologue spécialiste du Maghreb, Naoufel Brahimi El-Mili.
La rue demandait notamment le départ de Gaït Salah. Ce que le président investi ne pouvait pas faire. Ce dossier est clos. On va voir quelles sont les mesures que Tebboune va prendre. La demande des gens du Hirak, c'est la libération des détenus d'opinion. Cette demande n'est pas encore exaucée. Donc, il est attendu sur les actes.
Des actes, c'est ce que réclament les manifestants comme Amira, étudiante à Alger.
C'est pas un problème de personne, c'est un problème de système corrompu. Et ce système est toujours là, alors on est toujours dans les rues.
Et ils y seront demain encore, premier jour de deuil national, mais aussi journée de manifestation étudiante, comme tous les mardis depuis 10 mois.
Les explications de Louise Baudet. Un verdict vivement contesté. 5 Saoudiens sont condamnés à mort pour l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. 3 autres sont en prison. En revanche, 2 des principaux suspects sont disculpés. Il s'agit de Saoud Al-Qahtani, un proche conseiller du prince héritier Mohamed Belsalman, et de l'ancien numéro 2 du renseignement, le général Ahmed Al-Assiri. Ils étaient soupçonnés d'avoir supervisé l'assassinat de Jamal Khashoggi, chroniqueur au Washington Post, et tué au consulat saoudien à Istanbul en octobre 2018. Mais le caractère prémédité du meurtre n'a pas été retenu par le juge. Rien donc pour les proches du prince, évidemment rien pour le prince. De quoi ulcérer les associations de droits de l'homme. Christophe Deloire est le secrétaire général de Reporters sans frontières.
Malheureusement, on a reçu cette annonce avec un peu plus même que de la circonspection, une espèce de désolation. C'était censé élucider l'affaire Khashoggi et cette procédure n'a respecté aucun des standards internationaux de la justice. Une enquête bâclée, des procédures à huis clos avec des diplomates qui ont pu assister mais à qui il était fait interdiction de raconter à l'extérieur ce qui se passait. Bref, c'était porte fermée et des décisions qui ont toute décision discrétionnaire avec des acquittements pour certains, ceux qui étaient de rang le plus élevé, et des condamnations à la peine de mort dans cette affaire. Ça ressemble à une chose, c'est simplement la volonté de dissimuler à jamais, si ces peines devaient être exécutées, la voix de ceux qui pourraient témoigner sur ce qui s'est passé, parce qu'ils en ont vraisemblablement été les acteurs.
Ça permet à MBS, Mohamed El Salman, de s'en sortir honorablement, entre guillemets.
Mohamed Ben Salman, le prince héritier, il est en train d'essayer de reconstruire son image. Il a dit qu'il n'y était pour strictement rien. C'est ce que veut laisser croire aussi ce jugement. Donc il faut encore qu'on se batte pour obtenir la pleine vérité, pour qu'une justice digne de ce nom soit rendue. et pour que les conclusions politiques soient tirées, s'agissant de Khashoggi et s'agissant de tous ceux qui sont arbitrairement détenus en Arabie Saoudite.
Des propos recueillis par Nathanaël Charbonnier. En Syrie, la bataille fait rage à Idlib, où les troupes du régime appuyées par Moscou gagnent du terrain. Les frappes aériennes russes ont fait 9 victimes civiles hier et poussent des dizaines de milliers de personnes à fuir cette région majoritairement aux mains des djihadistes. Et pourtant, vendredi, la Russie et la Chine se sont opposées à la prolongation d'un an des aides humanitaires de l'ONU. La diplomatie russe ne veut plus que 2 points de passage au lieu de 4 actuellement, le tout sur une période de 6 mois. L'argument principal de Moscou, le régime de son allié Bachar al-Assad serait capable de gérer lui-même ses soutiens humanitaires. Une correspondance de Claude Bruot.
La question du veto de Moscou pose le problème d'un soutien sélectif aux populations syriennes meurtries par 8 années de guerre. La diplomatie russe, en effet, tente de faire passer l'idée selon laquelle le régime de Damas est aujourd'hui suffisamment réinstallé pour dispatcher lui-même les aides internationales, laissant entendre par là même que le pouvoir syrien distribuerait aussi les subsides dans les zones qui se refusent encore à son contrôle. Alors que la Chine dit clairement à l'ONU que les opérations d'aide humanitaires doivent être coordonnées avec le régime syrien pour éviter que des marchandises ne tombent, je cite, « entre les mains de terroristes », la Russie, elle, plus prudemment, sans doute pour ménager son allié turc, qui craint un nouvel afflux de réfugiés venus du nord de la Syrie, reste à mi-chemin en militant pour une aide réduite dans le temps de 1 an à 6 mois. Mais le résultat de la position du Kremlin est le même implicitement, car il intègre le fait que les secours aux populations civiles dans les zones opposées au régime de son allié al-Assad devraient à terme dépendre également de son contrôle.
Une correspondance de Claude Bruot depuis Moscou. Il était en difficulté depuis plusieurs mois. Le PDG de Boeing, Dennis Muilenburg, démissionne. Il n'a pas résisté aux 2 accidents en 5 mois de l'avion vedette de Boeing, le 737 Max, un modèle d'avion cloué au sol depuis le 13 mars et qui plonge Boeing dans la plus grave crise de son histoire. C'est le nouveau président du conseil d'administration, David Calhoun, qui prend sa place officiellement pour restaurer de la confiance. Une décision qui interpelle Xavier Tittelmann, spécialiste de la sécurité aérienne pour le cabinet CGI Consulting.
C'est vrai que d'une manière générale, quand la crise est finie, on change le directeur parce que son nom est associé à la crise et donc le fait de passer à quelque chose de nouveau, on passe à un nouveau nom pour incarner ce renouveau. Là, c'est une démission qui intervient après 2 échecs. L'échec évidemment sur le 737 Max qui ne va pas reprendre les vols commerciaux au mieux avant juin 2020, donc très tard. Et puis l'échec la semaine dernière du Starliner, donc le système de cargo spatial qui était en association avec la NASA. On a 2 très mauvaises nouvelles successives en moins d'une semaine. On a cette démission qui intervient juste après. Est-ce que c'est une décision personnelle de sa part? C'est trop pour lui, il craque, il veut passer à autre chose, il veut abandonner, il jette l'éponge. Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est parfaitement réfléchi, une communication qui est bien maîtrisée, parce qu'on a des solutions qui vont arriver très bientôt, parce qu'ils sont dans une reconstruction et ils veulent une nouvelle personne pour incarner ce renouveau et cette réussite de la sortie de crise? Aujourd'hui, clairement, on n'a pas de réponse. Et qui pilote la barque aujourd'hui? Est-ce que la personne qui le remplace a eu le temps des semaines et des mois de travail pour se préparer aux différents enjeux? Ou est-ce que c'est quelqu'un maintenant qui va devoir monter en compétence, qui va reporter d'autant de semaines le travail de recertification de l'avion?
Xavier Tittelmann au micro d'Hakim Kasmi. Aux États-Unis, le dossier de l'affaire ukrainienne continue de s'alourdir contre Donald Trump. Le président dont l'impeachment, le procès en destitution devant le Sénat, a été voté la semaine dernière. Donald Trump est soupçonné d'avoir fait pression sur Kiev pour obtenir une enquête sur l'un de ses rivaux et d'avoir bloqué en attendant ses investigations une importante aide militaire. Une aide, apprend-on hier, qui a été gelée à peine 90 minutes après le fameux appel téléphonique de Donald Trump à son homologue ukrainien, l'appel par lequel tout a commencé. À New York, une correspondance de Loïc Loury.
25 juillet dernier, Donald Trump passe un coup de fil à Volodymyr Zelensky. Il félicite son homologue ukrainien nouvellement élu. Il lui suggère surtout d'enquêter sur la famille de l'un de ses rivaux pour la prochaine présidentielle. Le contenu de cet appel est désormais bien connu. Ce qu'on ne savait pas, en revanche, c'est qu'une heure et demie plus tard, un responsable du budget demandait au Pentagone d'attendre, c'est le terme employé, avant de verser une aide à l'armée ukrainienne, $400 millions. Dans le mail en question, question. Ce responsable, Michael Duffy, parle de consigne. Étant donné la nature sensible de la demande, conclut-il, je vous saurais gré de le garder su strictement de ceux qui doivent être tenus au courant. Une révélation explosive selon certains démocrates. Cela ne change absolument rien, affirment au contraire les républicains. Ce mail sans conteste alimente la suspicion autour de cette fameuse aide, bloquée à peine 90 minutes après les pressions exercées par Donald Trump sur son homologue. Rien ne prouve toutefois que les deux soient liés, et le président américain qui poursuit tranquillement ses vacances en Floride ne devrait donc pas être inquiété.
Loïc Laurie, depuis New York. La Chine accuse Donald Trump de vouloir transformer l'espace en champ de bataille dans son viseur. La création d'une force de l'espace par Donald Trump vendredi dernier, une nouvelle branche de l'armée américaine composée dans un premier temps de 16 000 militaires et civils. Pour la diplomatie chinoise, les États-Unis violent le consensus international sur la pacification de l'espace. Pékin réclame en urgence un instrument juridiquement contraignant sur le contrôle des armements dans l'espace. Seulement un léger retard pour le gazoduc Nord Stream 2. Le projet controversé de pipeline entre la Russie et l'Europe ira à son terme, selon le gouvernement allemand. Les récentes sanctions américaines ne devraient entraîner qu'une hausse des coûts et un léger retard avec une livraison au deuxième trimestre 2020 plutôt que fin janvier. Donald Trump a promulgué vendredi une loi imposant des sanctions contre les entreprises associées à la construction de ce gazoduc. Des sanctions inacceptables et qui ne resteront pas sans réponse, selon le Kremlin. Le Chili en route vers un référendum pour changer sa constitution. Le président Sébastien Piñera a promulgué la loi permettant l'organisation d'un tel référendum avec une date, le 26 avril. La constitution actuelle est héritée de la période de dictature d'Augusto Pinochet. Sa modification est une des principales revendications des manifestants qui secouent le pays depuis plus de 2 mois. Les syndicats cheminots veulent maintenir la flamme. Aucune trêve en vue à la veille de Noël, malgré les demandes répétées du gouvernement, du président de la République et de la direction de la SNCF. Demain, jour de réveillon, seules 6 lignes de métro seront ouvertes, comptez 2 TGV sur 5, 4 TER sur 10. Les quelques transiliens prévus s'arrêteront progressivement de circuler à partir de 18h, et ce jusqu'à mercredi après-midi au moins. Et pour autant, si tous les syndicats cheminots, à l'exception de l'UNSA ferroviaire, appellent à continuer le mouvement, le taux de grévistes, lui, est en baisse. Il tombe à 9,2%. Moins de la moitié des conducteurs sont en grève, selon la direction. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonsoir.
Comment peut-on expliquer cette relative baisse de la mobilisation?
Eh bien, écoutez, Thomas, cette baisse, elle s'explique en partie par les vacances, car les journées de congé avaient été déposées par les cheminots avant le début de la grève, ce qui va leur permettre en partie de tenir sur la longueur. Car pour la grande partie d'entre eux, eh bien, il faut encore tenir, car la prochaine grande journée d'action n'est prévue que le 9 janvier prochain à l'appel de l'intersyndicale, ce que déplore une partie de la base des grévistes, pour qui la fin de mois commence déjà à être difficile, après déjà 19 jours de grève. Alors à titre de comparaison, c'est déjà la moitié de l'équivalent de la grande grève sur le statut qu'il y avait eu il y a 2 ans. Car si pour l'instant, la plupart d'entre eux tiennent grâce à la prime de fin d'année, qui tombe en décembre, vu l'ampleur du mouvement, elle est déjà bien entamée cette prime. En moyenne, les cheminots perdent donc entre 50 et 150 euros par jour, en fonction de leur statut de leur entreprise. Alors même si les syndicats ont des caisses de grève, elles ne suffiront pas du coup pour maintenir la mobilisation et ne pas démotiver les troupes. Des actions sous la forme de dîners ou de rassemblements seront menées pendant les vacances. Actions qui ont déjà commencé par exemple aujourd'hui, gare de Stalitz, devant des mairies et même devant des permanences La République en Marche. En attendant, selon un dernier sondage publié hier par le JDD, 51% des Français soutiennent encore les grévistes positivement.
Les précisions d'Hakim Kasmi. Et les actions continuent en dehors des transports. Après la raffinerie Lavera dans les Bouches-du-Rhône, la raffinerie de Grandpuy qui alimente Paris et sa région va être mise à l'arrêt. Et la CGT prévient, d'autres suivront. Alors, faut-il craindre une pénurie? Pas dans l'immédiat, mais Thierry Defresne, délégué syndical central de Total Raffinage, est inquiet.
Là, au moment où je vous parle, il n'y a plus que 3 jours de produits dans la raffinerie de Normandie. C'est-à-dire qu'encore pendant 3 jours, elle va alimenter Paris. Après, c'est terminé. C'est-à-dire que là, en ce moment, si Paris a connu un répit, c'est grâce à ce feu à Normandie, cette suspension du mouvement et le fait que Normandie a libéré ses stocks qui étaient hautement pleins. Mais là, c'est terminé dans 3 jours. Normandie n'auront plus de stock dans 3 jours. Donc ça veut dire que tout ce qui alimente la région parisienne est en train de s'arrêter au fur et à mesure.
Le gouvernement, pour le moment, en tout cas le ministère du Transport, ne dit pas son inquiétude par rapport à ces pénuries. Ils disent qu'il y a des stocks de réserve.
Alors, il y a des réserves, effectivement, on appelle ça les stocks sagesse. Ce sont les stocks qui sont normalement réservés à l'armée en temps de guerre. Alors, on a su que le gouvernement avait déjà commencé à débloquer ces stocks, mais la difficulté, ça va être de l'amener au réservoir des automobilistes. Il y a des stocks stratégiques à la MED, ils sont en grève, ils ne le distribuent pas. Il y a des stocks stratégiques également à Dunkerque, eux, ils sont en grève 4 heures toutes les 8 heures, donc ils les distribuent très peu ou pas du tout. Si vous voulez prendre votre voiture et aller faire le plein à dépôt, vous n'allez pas réussir. Il faut absolument que l'essence sorte des dépôts pour aller dans les stations-service. Et c'est ça la difficulté qu'ils vont avoir, c'est réussir à sortir le produit des raffineries et des dépôts. Les raffineries, c'est quasiment impossible, les dépôts, c'est de plus en plus dur.
Thierry Defresne au micro de Marie Viennot. Le mouvement clandestin nationaliste corse du FLNC, dit du 22 octobre, revendique l'attentat aux bombes de gaz de vendredi dernier. Une explosion qui a endommagé une villa de l'homme d'affaires Pierre Ferracci à l'extrémité sud de l'île. C'est la première action violente revendiquée par ce groupe depuis qu'il a annoncé un processus de démilitarisation en mai 2016. Nous n'avons pas signé un blanc-seing à la France, écrit le groupe dans un communiqué. Une information judiciaire pour homicide involontaire est ouverte à Toulouse un mois après l'effondrement d'un pont suspendu à Mirepoix sur Tarn en Haute-Garonne. L'effondrement qui a fait 2 morts et 1 blessé aurait été provoqué par le poids excessif d'un camion de plus de 50 tonnes. Ce camion avait emprunté le pont, une possible violation des obligations de sécurité et de prudence selon le parquet. Noël, le réveillon, c'est déjà demain. Les petites filles et les petits garçons trouveront peut-être dans leurs chaussons tous les jouets dont ils ont rêvé, avec sûrement, comme chaque année, de nombreux jeux vidéo. L'an dernier, le chiffre d'affaires du secteur a atteint les 4,9 milliards d'euros, un nouveau record. Mais ce loisir grand public a son lot de dangers s'il est mal ou trop pratiqué. Cette année, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs mène une campagne de sensibilisation nationale. Son but, informer les parents pour une pratique plus sereine. Les explications d'Amandine Sanchez.
3, 7, 16 ou encore 18, difficile de passer à côté de ces gros chiffres blancs en bas à gauche des jaquettes de jeux vidéo. Et pourtant, seul un parent sur deux prête attention à ce logo. Ce logo, c'est la norme PEGI. Elle permet de savoir si un jeu est adapté à l'âge du joueur. Une classification établie par des psychiatres et des spécialistes de la pédagogie.
Il y a toute une ligne de critères qui permettent de juger ça, donc sur les différents types de contenus sensibles qui peuvent être la nudité, le type de langage, le niveau de violence, la présence de substances illicites ou autres.
Emmanuel Martin est directeur général du CEL, syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs.
Vous n'aurez pas le même type de classification si la violence est adressée envers un personnage imaginaire, si le personnage disparaît dans un petit nuage. Ou si il s'écroule dans une mare de sang.
Ce ne sera pas simple.
À l'approche de Noël, son syndicat a diffusé une vidéo de sensibilisation à l'attention des parents. Le contrôle parental est au cœur de cette campagne et pour cause, seul un parent sur trois l'utilise. Présent sur les consoles, les ordinateurs et même les smartphones, c'est pourtant un outil très efficace selon Emmanuel Martin.
Pour, par exemple, interdire de jouer à certains jeux en fonction des catégories d'âge, paramétrer également l'argent qui est dépensé ou le temps de jeu. Et on peut également paramétrer tout ce qui est usage des chats qui permettent de dialoguer avec d'autres joueurs. Et donc, quand l'enfant va démarrer sa session de jeu, elle va se retrouver dans un univers qui est entièrement protégé, qui aura été paramétré par ses parents.
Plus de 2/3 des Français sont des joueurs occasionnels, un chiffre qui grimpe à 96% chez les 10-17 ans. Pour Dan Velea, psychiatre addictologue, un encadrement des parents est donc indispensable.
Les enfants et les ados sont déjà des personnalités assez fragiles. Confrontés à un risque d'addiction, il faut faire très attention parce que ça leur offre peut-être une forme de refuge, beaucoup plus apaisant que la réalité au quotidien scolaire avec des contraintes, avec des pressions familiales, de l'école, de l'entourage. Donc ils se réfugient là-dedans. Puis ils retrouvent des amis, ils créent des avatars, ils ont un univers qu'ils se sont créés eux-mêmes. Et cette réalité qu'ils se sont créée, la réalité virtuelle, elle est beaucoup plus facile à vivre que la réalité telle que nous la vivons au quotidien.
D'autant que le trouble du jeu vidéo a été reconnu comme maladie par l'Organisation mondiale de la santé en mai dernier.
On a vu apparaître de plus en plus de consultations et de demandes en consultation de la part de l'entourage ou de la part des gens eux-mêmes qui se posaient la question de cette addiction. On s'est rendu compte vraiment que c'était pas seulement des tableaux dépressifs ou des phobies sociales ou quoi que ce soit qui se cachaient derrière, mais c'était des véritables addictions. Au détriment d'autres centres d'intérêt au niveau social, social, au niveau familial, professionnel, tout ce qui est un petit peu contact avec la réalité.
Mais attention à ne pas trop noircir le tableau, les cas d'addiction restent rares. De nombreux spécialistes trouvent même des bienfaits aux jeux vidéo, meilleure gestion du stress, acuité visuelle ou encore capacité d'attention accrue, et ce, même pour les plus violents, comme les FPS, les jeux de tir à la première personne.
Les précisions d'Amandine Sanchez. Un mot de la météo. 4 départements sont en vigilance orange. La Haute-Savoie et la Savoie pour avalanche, l'Ille-et-Vilaine et la Charente-Maritime pour inondation. Demain matin, un temps pluvieux sur la moitié est de l'île à Grenoble. Du soleil partout ailleurs. Côté température, comptez 10 à Strasbourg, 13 à Paris et La Rochelle, 14 à Limoges et 19 à Perpignan. C'est la fin de ce journal. Il vous a été préparé avec l'aide de François-Charles Demergue. À la technique, Thibaut Nassimben.